Votre émission sur RMC avec Pluto TV. Plus de 130 chaînes gratuites en streaming. Pluto TV, streamer, c'est gratuit. Vous écoutez
RMC.
Le dossier hors Coupe du Monde, Jérôme, tu nous en parles très souvent. Quitter le parc, est-ce que ça peut être une option pour le PSG? Nasser Al-Khelaïfi ne se cache plus sur le sujet. Il a fait quelques interviews récemment, dont une dans l'équipe, où il dit « Cela fait 5 ans que l'on se dispute avec la mairie. Nous sommes fatigués des fausses promesses parce que Nasser Al-Khelaïfi veut acheter le Parc des Princes. » Et il ajoute « Nous ne sommes plus les bienvenus au parc. S'il pense que l'on va investir 500 millions d'euros, eh ben on va simplement aller construire un autre stade ailleurs. » Alors, la personne qui est en charge de ça à la mairie, c'est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la ville, responsable de l'urbanisme. Il est avec nous en direct.
Bonjour, monsieur Grégoire.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Grégoire, qui a notamment déclaré, Jérôme, que la vente n'était pas exclue, mais au juste prix. Le PSG a proposé 40 millions d'euros. C'est moins cher que Paredes, franchement. Vous pensez vraiment que le parc vaut moins que Paredes?
Bon, monsieur l'adjoint au maire, est-ce que le parc est à vendre?
Alors, le parc est à vendre. C'est pas une question simple pour y répondre, parce que je vous le dis très clairement, nous n'avons jamais exclu de vendre le Parc des Princes pour une raison simple, c'est que nous voulons à tout prix, que le Paris Saint-Germain reste au Parc des Princes. C'est une histoire très intimement liée, affectivement liée. Nous avons besoin du club à Paris, c'est le club de la capitale, et nous entendons qu'il le reste. La difficulté, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer en quelques minutes, mais c'est que la vente de biens publics, la vente d'un bâtiment qui appartient à un organisme public, c'est le cas de la ville de Paris, répond à des contraintes juridiques très fortes que, je crois, le président du PSG avait en tête, mais malheureusement, il les a un peu oubliées. C'est que, d'abord, il faut proposer un prix, savoir si on estime qu'il est valable ou pas. Ensuite, il faut le faire valider par les domaines, c'est-à-dire l'administration de Bercy, l'administration des finances, qui définit le juste prix auquel vous avez le droit de le vendre. Et vous ne pouvez pas le vendre moins cher que le prix qui est établi par les domaines. Et enfin, il faut convaincre le Conseil de Paris. Quand bien même moi, je serais d'accord, et on peut partir sur cette hypothèse, il faudrait que j'arrive à en convaincre une majorité des 163 conseillers de Paris. Ce n'est pas si simple. C'est pour ça qu'on travaillait de façon, entre guillemets...
Et vous, la mairie de Paris, vous êtes vendeur, monsieur Grégoire?
Bah, disons que on comprend l'argument de Nasser, c'est-à-dire quand il dit moi je vais devoir investir 500 à 600 millions d'euros et je ne peux pas ne pas me poser la question d'acheter le parc, je veux pas lui dire non comme ça, et donc je dis on en discute. C'est pas notre option prioritaire. Historiquement, le parc, c'est la propriété de la ville de Paris, c'est un moyen aussi de le garder dans le patrimoine public, et on a ce qu'on appelle des baux à long terme, c'est-à-dire des baux, on loue le parc sur une très longue durée, y compris qui permet d'amortir un investissement. Mais c'est vrai que dans le modèle des grands clubs internationaux, la propriété du stade est un élément qui compte beaucoup, et je connais suffisamment le foot pour ne pas ignorer cet argument et le balayer d'un revers de main.
Surtout, monsieur Grégoire, que le Paris Saint-Germain, du moins les Qataris, ont payé énormément de travaux.
80 millions d'euros.
Beaucoup dépensé pour remettre le parc au goût du jour, parce qu'il était vieillissant quand même. Donc ça, c'est déjà une première chose.
C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont encore un bail qui court pendant très longtemps.
C'est vrai.
Mais on négocie, loue très peu, on loue vraiment pas cher le Parc des Princes au PSG. Mais c'est notamment parce qu'ils ont investi une remise à niveau il y a quelques années.
Mais quand on parle que le président du Paris Saint-Germain a fait une déclaration dernièrement en disant voilà, on nous prend pour des cons parce qu'il demande beaucoup d'argent, on parle de 400 millions. Est-ce que vous confirmez ça à peu près, le prix du Parc des Princes? Combien ça vaut pour vous?
En fait, c'est très compliqué. Je vais vous donner deux exemples. Le Parc des Princes avec le PSG, ça vaut beaucoup. Le Parc des Princes vide sans personne, ça vaut beaucoup
ça vaut
moins.
Pas grand-chose.
Chacun comprend. Et donc, c'est pas facile de vous dire combien ça vaut exactement.
Mais vous savez, monsieur Grégoire, vous savez combien à peu près vous allez leur demander, non? Une fourchette?
Alors non, parce que pourquoi je sais pas. D'abord parce que ça dépend de deux critères juridiques. Par exemple, je vous dis, le Parc des Princes est une emprise foncière. C'est un grand terrain qui se situe dans l'un des quartiers les plus chers de Paris. Si vous détruisez le Parc des Princes, ça a une valeur foncière, une valeur du terrain absolument astronomique. D'ailleurs, pour donner un exemple, il y a des experts consultés par vos confrères du Parisien qui disaient le parc il vaut 1 milliard d'euros. Ah. De l'autre côté, on a le PSG. Désormais, les chiffres sont sur la table et j'aurais préféré que ça reste pour l'instant au stade de discussion, entre guillemets, discrète et intelligente. Dit, ça vaut 40 millions d'euros. Nous avons une expertise produite par des experts indépendants qui disent, ça vaut 350 millions d'euros. Mais en fait, vous pouvez mettre des clauses d'affectation. Par exemple, vous dites, si je vends le bien, mais qu'il doit rester pour l'éternité un stade de foot pour le PSG, et que si jamais un jour le club décide de se débarrasser du parc, eh bien la ville a le droit de le récupérer, vous pouvez le vendre moins cher. Donc en fait, il y a plein de sous-jacents techniques assez complexes. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il aurait, je pense, mieux fallu qu'on continue à travailler sur le plan technique. Et c'est pour ça que moi, d'abord, on respecte le Paris Saint-Germain plus que tout. Deuxièmement, nous respectons l'actionnaire du Paris Saint-Germain.
Oui, mais comment vous avant de donner la parole à Louise, qui a une question pour vous, mais quand on écoute Nasser, le président du Paris Saint-Germain, il a l'air très énervé parce qu'il dit ça fait 5 ans qu'on nous mène en bateau, quoi, en fait. Donc pourquoi la période de 5 ans, pourquoi, comme vous dites, on préfère traiter ça en privé et que ça sorte pas, mais mettez-vous à la place.
Président, d'abord, je ne me mets pas à la place du président, c'est pas mon rôle. Moi, je suis premier adjoint à la ville de Paris, moi je défends les intérêts des Parisiens, et en l'occurrence, y compris parce que j'en suis un fan, je défends les intérêts du PSG. Moi, c'est pas mon rôle, moi je laisse le président du PSG définir son propre rôle, et c'est incontestablement pas le même que le mien, mais au moins on se converge sur deux choses, c'est les intérêts du PSG et maintenir le PSG au parc, et j'ai compris que c'était aussi sa priorité, et donc pour l'instant on est en la matière alignée. Ce que je veux dire, c'est que le président sait très bien que des discussions préalables avaient eu lieu et je n'avais pas le plaisir d'y participer puisque je n'en avais pas la charge, mais depuis que je suis en charge de ces sujets pour le compte de l'exécutif parisien, nous avons accéléré les discussions sur deux hypothèses. L'hypothèse privilégiée, y compris parce qu'elle est plus simple en termes d'acceptabilité pour tout le monde, celle de renégocier un bail de très long terme.
Et ça, ils veulent pas.
Du PSG, d'accord, ils veulent pas, mais c'est pas de la vie, c'est pas aussi simple. Hein. Moi, encore une fois, hein, si j'acceptais de vendre le PSG, de vendre le Paris des Princes, ça ne changerait rien à l'affaire. C'est pas moi.
Non, mais vous avez acté le fait qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas continuer le bail comme c'est le cas.
Oui, mais la vie, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas on se met d'accord, on se tape dans le dos et ça roule. C'est pas comme ça. Il y a un droit français qui s'implique à tous, et en l'occurrence à nous. Et donc, on est obligé de suivre un certain nombre de procédures. Ce qui est certain, c'est que nous avons acté l'idée d'ouvrir des discussions qui se sont accélérées depuis une année. Pas depuis plus longtemps, depuis une année qu'on a commencé vraiment, notamment chacun de notre côté, à mobiliser des experts pour évaluer. Et qu'on était dans un débat un peu contradictoire, hein, de dire non, c'est trop cher, pas cher, etc. Ce que je comprends des interventions du président, et je les entends, et du coup, je ne lui en tiens pas grief, c'est qu'il y a une impatience, elle est réelle. Le Parc des Princes est à 100% d'occupation, quasiment, sur les 100 dernières rencontres. C'est un club qui a connu un développement sportif et extra-sportif exponentiel, et que nous voulons accompagner ça. Et c'est vrai qu'on a tous été un peu saisis par la rapidité du développement.
D'accord. Emmanuel Grégoire, on a une question de Louise Fernandez, légende du PSG.
Bonsoir, je voudrais la capacité du parc est à 45 000 spectateurs, c'est bien cela ?
Absolument.
Ok. Est-ce que peut-on l'agrandir ? Si oui, de combien ? Parce qu'on me dit, il n'y a pas très longtemps, qu'on peut éventuellement l'agrandir de 15 000. Ouais. On peut la passer à 60 000. Parce qu'aujourd'hui, tous ces grands stades en Europe sont à peu près dans ces...
Ouais, c'est plus 70 000 que 60 000.
70 000. Est-ce qu'on peut l'envisager?
Oui, alors c'est tout à fait l'une des difficultés techniques du dossier, c'est que le bâtiment a une configuration particulière, ce qui fait aussi son charme du fait de sa compacité, du bruit, de l'ambiance qu'il y a. La difficulté, c'est qu'il est situé pour moitié au-dessus du périphérique. Il a été construit donc traditionnellement dans les reprises de stades. L'une des solutions, c'est de creuser le sol et d'accentuer les angles des tribunes. Ça permet de densifier. Or, aujourd'hui, les travaux techniques, et je suis prudent parce que d'abord, je ne les ai pas menés moi-même et je n'en ai pas la compétence, mais les travaux d'études d'ingénierie qui ont été formulés disent qu'on peut difficilement aller au-delà de 10 000, 15 000 places supplémentaires. Et effectivement, alors que ça augmenterait de beaucoup la capacité, mais incontestablement, on ne peut pas atteindre des niveaux de jauge de 80 000 ou 100 000 comme on le fait pour les très grands stades sur le plan international. Mais le PSG nous a transmis le message qu'il préférait un stade à 60 000 qui soit celui de son stade historique. Voilà.
C'est bon,
avec
voilà, c'est logique. Voilà.
En gardant, y compris en gardant ce côté compact extrêmement précieux du parc. Mmh. On voit beaucoup d'ailleurs aux supporters.
Oui, mais ce que dit le PSG, c'est que ces travaux-là sont très chers. Si en plus, il faut acheter le Parc des Princes très cher parce que la mairie ne veut pas l'acheter.
Ils le feront pas.
Ça fait un investissement plus important que si le PSG construit son stade ailleurs.
Pas tout à fait vrai. Pardonnez-moi. C'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, construire un stade de 100 000 places sur un terrain disponible dans lequel il y a une distribution de transports en commun, etc., vu les délais, vu l'inflation des prix de la construction, etc., je suis dubitatif sur l'idée que l'équation économique est plus facile.
Monsieur Grégoire, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas moi qui m'occupe du dossier, mais j'ai eu quand même quelques renseignements et quelques infos, et je peux vous dire que si jamais ils trouvent pas un accord avec vous, ils iront ailleurs, et le terrain, ils l'ont déjà plus ou moins trouvé. Mais peu importe. Ma dernière question, c'est, j'ai écouté, et on a tous écouté ce que vous avez dit, et je vous en remercie déjà de venir intervenir dans l'émission, mais est-ce que vous avez pas peur que si jamais il n'y a pas d'accord avec le Paris Saint-Germain, que s'ils vont jouer ailleurs, ils construisent un stade, ou ils vont jouer au Stade de France dans un premier temps, vous soyez pris comme... le responsable du fait que le PSG quitte le Parc des Princes et que là, pour de bon, les Parisiens pourraient vous en vouloir.
Écoutez, d'abord, ce ne serait pas une responsabilité que nous porterions, nous, parce que c'est un choix de l'actionnaire pour le développement du club. Quand l'actionnaire a acheté le PSG, il savait qu'il prenait avec une enceinte de 45 000 places qui n'était pas tout à fait neuve, comme on dit. Ça faisait partie du lot. Et on ne peut pas s'affranchir des contraintes que crée le parc. Moi, mon sentiment, c'est que le PSG, son avenir, c'est au Parc des Princes, tout simplement. Okay. Et si on part de ce postulat, et que c'est un postulat partagé entre l'actionnaire, la ville, les supporters et tous les fans de foot, nous allons trouver une solution. Je veux dire, moi, je n'imagine pas le RC Lens jouer ailleurs qu'à Bollaert, etc. Il y a des identités consubstantielles entre les clubs et les lieux où ils jouent. Et ça, c'est un enjeu de profondeur historique.
Ça va faire plaisir aux supporters, cette dernière phrase. Merci, Emmanuel Grégoire.
Que je n'ai aucune autre obsession que de maintenir le PSG au Parc des Princes et que je mettrai toute mon énergie pour trouver la solution.
Bon, alors c'est bon signe. Donc le PSG va rester au Parc. Bonne négociation. Merci en tout cas d'être venu.
On en reste là sur le sujet. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pourrez vous faire le podcast de Rotten sans flamme et on vous met les déclarations sur rmcsport.fr. Dans une seconde, le casar enchaîné.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.